ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Aux cartes, ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent, ce sera tout à fait comme à la radio.
Ce ne sera... Radio Pleine Lune, 93.8 MHz sur Onde Femme Radio Zone. Alors malgré toute cette pluie, on ne voit rien dans le ciel, mais la lune est dans vos oreilles. Tout de suite, nos nouvelles. Radio Pleine Lune, Radio Zone, 93.8 MHz, nos nouvelles. À Genève, le groupe des femmes en noir, qui depuis plus d'une année s'est mobilisé pour protester contre la guerre en ex-Yougoslavie, a décidé un petit peu de changer sa stratégie et entre autres de faire porter leur action directement dans les territoires en guerre. Nous avons avec nous Rina Nissim qui nous explique leur action.
Le projet que nous désirons soutenir s'appelle Medica Zenica. Il se situe en Bosnie-Herzégovine, au départ dans la ville de Zenica. Mais la visite que nous avons faite ce week-end était à Belgrade, auprès de Femmes en Noir Belgrade et de SOS Femmes. SOS Femmes était un groupe préexistant à la guerre et qui s'occupait donc, c'est une ligne téléphonique pour les femmes victimes de violences, au départ donc victimes de violences conjugales, et depuis la guerre également victimes de violences de guerre. Elles s'occupent donc, elles vont visiter les femmes dans les camps de réfugiés, elles essayent de les aider à dépasser leurs expériences et à s'organiser, ce qui n'est pas une petite chose. Quant à Femmes en Noir, est un groupe qui existe depuis 2 ans, et samedi c'était l'anniversaire des 2 ans de leur rassemblement de protestations régulières qui ont lieu là-bas toutes les semaines. Et c'était l'occasion d'inviter des femmes de l'extérieur. Il y avait donc des femmes d'autres villes de la Serbie actuelle, du Monténégro. Il y avait des Italiennes, des femmes de Budapest et des Américaines qui étaient donc venues apporter leur solidarité à ces femmes qui continuent à résister à la guerre et à résister au nationalisme. La semaine prochaine, nous aurons l'occasion de parler plus longuement, Françoise Bloch et moi-même, de cette expérience, d'une part de la vie quotidienne des femmes, telle qu'elles la vivent aujourd'hui, de l'appauvrissement important auquel on peut assister, d'autre part de la manière dont les femmes s'organisent contre le nationalisme, de la manière dont les féministes s'organisent contre le nationalisme, et du type de soutien que nous pourrions leur apporter, et finalement, également, de comment ce nationalisme est monté. On a eu des interviews extrêmement intéressantes sur comment ça s'est construit, ce mythe héroïque serbe et ce mythe héroïque croate.
Est-ce que les féministes que vous avez rencontrées arrivent concrètement à dépasser justement ces mots d'ordre de nationalistes et à se rencontrer entre serbes, croates et bosniaques, pour l'instant en tout cas?
Elles se rencontrent tous les ans à Novi Sad. Cet été, il y avait un grand rassemblement à Novi Sad avec justement les femmes des 3 régions, si on veut dire. Et elles sont parfaitement solidaires ensemble. Et elles se soutiennent également financièrement, parce qu'il est évident que les femmes de Zagreb reçoivent plus de soutien financier, puisqu'elles ont été considérées au début de la guerre comme les victimes. Et elles ont en fait donné de l'argent aux femmes de Belgrade. Et la solidarité existe réellement entre elles. Entre des femmes donc qui refusent de prendre leur camp, en quelque sorte. Et de la même façon, il y a des réfugiés bosniaques qui ont rejoint Femmes en Noir à Belgrade et qui sont le même genre de personnes, donc qui refusent de prendre leur camp. Et ça a été extrêmement important, le fait qu'elles rejoignent ce groupe, parce que pour rapprocher les femmes dans les camps de réfugiés, il est évident que d'autres réfugiés sont beaucoup plus à même de le faire que des femmes serbes qui vivaient déjà à Belgrade auparavant.
Au Au Pakistan, Benazir Bhutto reprend le pouvoir. Après la victoire étriquée de son parti aux législatives, Benazir Bhutto devra composer avec les élus indépendants qui monnaient déjà leur soutien. Elle redevient donc Premier ministre. Sa première expérience en 1988 avait été assez désastreuse. En 20 mois de pouvoir, Benazir Bhutto avait surtout fait montre d'arrogance et d'incompétence. Cette période a laissé un très mauvais souvenir aux Pakistanais, ce qui explique sans doute l'étroitesse de sa victoire. Elle a entre autres cultivé très étroitement ses relations avec l'armée et l'état-major, multipliant concessions et compromissions. Elle s'est ainsi engagée à suivre la politique économique libérale du premier ministre intérimaire choisi par les militaires. Elle devrait donc poursuivre son programme de privatisation, d'ouverture aux capitaux étrangers de son prédécesseur. Et en politique étrangère, bien entendu, elle suit directement les ordres de Washington. Elle suit donc cette ligne très pro-occidentale. Prix Nobel de littérature décerné à Toni Morrison. Elle est la première femme noire américaine et la 8e femme à recevoir le Nobel de littérature. Toni Morrison a 62 ans, elle est noire et c'est une femme. Ses 6 romans sont écrits de ce point de vue et lui sont consacrés. Les jurys de l'Académie suédoise ont rendu donc hommage à son art, lequel selon eux, je cite, « brosse un tableau vivant d'une face essentielle de la réalité américaine ». Le noir est le prolétaire du blanc, la femme est le prolétaire de l'homme, la femme noire est la plus mal lotie. La double aliénation est dès les débuts littéraires de Toni Morrison en 1970 avec L'œil le plus bleu, l'angle d'attaque de cette figure du proue de la communauté noire et de la littérature américaine qui n'a cessé de rappeler que la société de son pays était tout à la fois racialisée et sexualisée. La plupart de ses livres sont traduits en français et publiés même en livre de poche. Toujours aux États-Unis, 8 ans de prison pour l'ex-gauchiste Catherine Ann Power. Impliquée dans le meurtre d'un policier en 1970, l'accusée était sortie récemment de sa clandestinité. Cette ancienne opposante à la guerre du Vietnam, impliquée dans le meurtre d'un policier, a récemment donc émergé de la clandestinité. 23 heures après les faits, un juge de Boston l'a condamnée à un minimum de 8 ans de prison et à une période probatoire de 20 ans, au cours de laquelle Catherine Power se voit interdire de percevoir un quelconque profit sous forme de droits littéraires ou cinématographiques de son aventure. Devant le juge, elle a dû s'engager à ne pas rompre cette promesse, faute de quoi elle se verrait condamnée à prison à vie. L'affaire remonte donc en 1970. Catherine Power, militante engagée contre la guerre du Vietnam, se trouve entraînée dans l'attaque d'une banque, une action décidée par le groupe auquel elle appartient pour financer les mouvements pacifistes. L'affaire tourne mal. Un policier de Boston est tué. Catherine Power n'était qu'une comparse. Son rôle consistait simplement à conduire une voiture. Pendant les 14 années suivantes, elle a figuré sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI. Entre-temps, Catherine s'était installée dans une petite ville sous une fausse identité. S'était mariée et avait eu un enfant. De plus en plus dépressive au fil des ans, minée par le remords, Catherine Power a décidé de se rendre à la justice pour, je cite, « payer sa dette envers la société ». Toujours aux États-Unis, le magazine Playboy est contraint à l'exil. Est-ce le retour du puritanisme ou la force du féminisme américain? Mais en tout cas, Playboy, le magazine pour hommes, voit sa diffusion en chute libre. Elle est même tombée de 50% depuis 1972. La PDG, car c'est une femme de Playboy, Christine Hefner, fille du fondateur, vient d'annoncer une restructuration prévoyant plusieurs licenciements jusqu'à 10% des effectifs. Playboy prédit une perte de presque 5 millions de dollars cette année. Le salut donc réside à l'étranger, affirme Christine Hefner. Playboy va lancer sa 17e édition étrangère en Afrique du Sud. Mais le plus grand défi pour Playboy, surtout aux États-Unis, consiste à rendre ses produits plus acceptables pour les femmes, selon le responsable du marketing. Playboy, ajoute-t-il, a une image de mâle. Comme c'est bizarre. Yeah, 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 yeah. En Europe et en France, entre autres, on parle beaucoup de travailler moins, de partager le travail. Et on présente la plupart du temps le temps partiel comme la nouvelle recette miracle pour lutter contre le chômage. La sociologue Margaret Marouani, qui a beaucoup étudié le travail à temps partiel, n'est pas d'accord. Et je la cite. Il y a une très grande hypocrisie dans les débats actuels qui mélangent temps choisi et temps partiel. D'un côté, on trouve des salariés qui décident librement de prendre un jour par semaine, le mercredi par exemple, pour rester avec les enfants. En revanche, le temps partiel, imposé à l'embauche, se développe fortement. Il concerne quasi exclusivement les femmes dans les services, grande distribution, commerce, hôtellerie, nettoyage. Pour elles, le temps partiel est souvent la seule solution. Ou c'est le chômage. L'employeur utilise ensuite des heures supplémentaires. Fréquemment, ces femmes travaillent sur des horaires décalés, en nocturne, aux heures de pointe, le samedi. C'est indécent alors de parler de conciliation avec la vie de famille. Quant au débat du partage du travail, on oublie le fait que le temps partiel est occupé presque majoritairement par des femmes. Pourquoi demande-t-on aux seules femmes de partager l'emploi ? Le temps partiel, c'est une étiquette que l'on colle à du sous-emploi, une nouvelle forme de précarité et au bout du compte, de pauvreté. Les prostituées d'Anvers ont organisé une journée porte ouverte. C'était pas dans le mois du commerce, mais presque. Elles ont fait cette manifestation pour protester contre la décision que le bourgmestre d'Anvers avait prise pour les expulser de leur vieux quartier en rénovation et de les reloger dans une zone où les loyers sont trois fois plus chers. La concurrence très lourde et la mafia omniprésente. Les 120 prostituées de ce quartier, le Schippersberg quartier, ne se sont pas laissées faire, à part quelques jeunes Ghanéennes récemment arrivées. La plupart d'entre elles sont relativement âgées et tiennent à terminer leur carrière et leur vie dans ce lieu qui est dévolu à la prostitution depuis le XIVe siècle. Pour faire comprendre leur point de vue, elles ont distribué des ballons aux enfants, invité les passants à venir prendre le café dans leur accueillante chaumière. Des touristes, mais aussi des gens d'Anvers, de l'étudiant à la petite vieille, ont répondu à l'invitation, fraternisé avec elles et signé leur registre de soutien. Le bourgmestre d'Anvers est furieux car cette manifestation compromet les projets immobiliers en cours dans ce quartier en voie d'assainissement. Une nouvelle rubrique, tout va bien dans le monde. En Chine, on traite les femmes comme des bétails et ces histoires alimentent la rubrique des faits divers dans plusieurs journaux qui relatent entre autres l'arrestation de plusieurs délinquants spécialisés dans le trafic de femmes malades mentales. L'une d'elles a été échangée contre un veau. Son acquéreur, un paysan pauvre, l'a tellement brutalisée qu'elle est morte. Le trafiquant a été condamné à 15 ans de prison. Il a vendu en tout 7 femmes, parfois avec leur bébé. Dans la même province, une femme souffrant de troubles mentaux a été vendue après 10 ans de mariage pour 145 francs par son époux qui a pris 7 ans de prison. Autre histoire, cette fois-ci aux Émirats Arabes Unis où un couple d'Anglais a été expulsé pour adultère. La femme en instance de divorce était mise en ménage avec son amant. Son mari, également anglais, l'a dénoncé. Un premier tribunal a condamné les coupables à 1 an de prison. Yvonne, 35 ans, s'était donc retrouvée par la faute de son mari jaloux derrière les barreaux avec 3 de ses enfants. La suite, elle a été libérée sous caution et la peine a été commuée en expulsion. Le couple adultérin entend faire appel. En Tchécoslovaquie, des jeunes mariés tchèques ont passé 15 jours de 7h à 9h du soir dans la vitrine d'un grand magasin de Prague. En récompense, ils ont reçu les meubles qui étaient exposés, salon et kitchenette. Aux USA, on totalise 2 fois plus d'enfants pauvres que dans tous les autres pays industrialisés réunis. 20% des enfants nord-américains vivent au-dessous du seuil de la pauvreté. L'Australie, le Canada et la Grande-Bretagne suivent avec 10% d'enfants défavorisés. En Suisse, les femmes de l'Union syndicale suisse refusent le modèle de rente AVS unique proposé par le Parti démocrate chrétien. Le Parlement devra choisir entre le splitting et la rente unique, mais c'est surtout l'AVS à 64 ans pour les femmes qui pourrait faire capoter cette 10e révision qui est en cours depuis 14 ans. On a cru voir le bout du tunnel quand le Conseil national a donné son aval au système du splitting, mais la commission du Conseil des États a remis les compteurs à zéro en lançant l'idée de la rente unique. D'où la colère des femmes de l'Union syndicale suisse, l'UNS, l'URSS. Selon elle, il s'agit d'une manœuvre dilatoire qui permet aux opposants du splitting de repousser, voire de rejeter définitivement, le débat sur l'égalité de traitement dans l'AVS. Rappelons que la méthode du splitting, il n'y a plus de rente de couple. Chaque assuré a un droit à une rente individuelle basée sur ses propres cotisations. Pendant le mariage, le revenu du couple est réparti à part égale. Et on y ajoute des bonifications pour tâches éducatives ou d'assistance. Reste que même si les chambres retiennent l'idée du splitting, on ne sera pas sorti de l'auberge pour autant, car le Conseil national a assorti cette innovation d'un relèvement de 2 ans de l'âge de l'AVS pour les femmes. Et il est probable que le Conseil des États fera de même. Le cas échéant, nous lancerons un référendum, a averti Christiane Brunner. Toujours en Suisse, l'entreprise des CFF a édicté un règlement pour l'égalité des sexes. Depuis le 1er octobre, les CFF disposent d'un règlement interne sur l'égalité entre hommes et femmes. Il a pour but de promouvoir le travail à temps partiel, de garantir le respect des quotas de représentation et d'éviter toute discrimination sur le point linguistique. Au moment de pourvoir un poste, les CFF s'efforceront d'accorder autant d'importance aux activités extra-professionnelles des candidats, engagement familial, esprit de groupe, expérience de vie, qu'à leur formation et à leur qualification professionnelle. La régie entend en outre promouvoir à tous les niveaux le temps partiel. La régie veut aussi augmenter la proportion de son personnel féminin dans tous les secteurs où les femmes sont sous-représentées. Cela est notamment valable pour les postes à responsabilité. Toujours sur le front de l'égalité, le canton de Vaud a décidé d'introduire aussi l'égalité des sexes chez les pompiers, mais sans grand enthousiasme. À vrai dire, à tel point que la gauche et les Verts sont scandalisés de voir appliquer l'article constitutionnel sur l'égalité des sexes dans l'unique but de prélever un impôt supplémentaire, car c'est de cela qu'il s'agit. Les femmes seraient donc elles aussi contraintes au service du feu, et si elles n'y vont pas, eh bien elles paieront l'impôt. Quand on est une prostituée, il faut savoir donner des prix et des prix qui soient acceptables. Ainsi, une femme s'est vue déclarée coupable pour se vendre trop cher. C'est l'histoire de Fernanda, une Portugaise de 36 ans, qui avait encaissé presque un demi-million en profitant de la sénilité de son amant, un millionnaire octogénaire. Elle a été condamnée par défaut à 2 ans de réclusion, 20 000 francs d'amende et l'expulsion pour 15 ans. Elle avait beau lui prêter son corps, si ce n'est lui vendre, la contre-prestation, a dit le juge, je cite, la contre-prestation de service était à l'évidence trop élevée en vue des sommes astronomiques touchées, dit poétiquement le tribunal correctionnel de Lausanne. Fernanda faisait payer ses charmes trop cher et doit donc être reconnue coupable d'usure par métier. Une autre amie du millionnaire avait reçu la même somme mais n'avait pas couché avec lui. Elle a donc bénéficié d'un non-lieu, c'est logique. Ça s'est passé en Suisse. Lui est Soleroy. Elle est brésilienne. Elle a purgé une peine de prison en Suisse pour avoir transporté de la drogue. Ils se sont mariés à 11h du matin et à 15h, la police les attendait. Elle a pris la femme qui a passé sa nuit de noces en prison, puis elle a été expulsée. Gloria n'était pas donc une mule comme les autres. Même Arnold Koller, le directeur du département fédéral de justice et police, qui l'avait visité à la prison de Hindelbank, avait été impressionné par sa personnalité. Pendant sa période de semi-liberté, elle avait entrepris des études de lettres à l'université de Fribourg, une formation financée par son travail de serveuse. Elle voulait continuer ses études et comptait refaire sa vie en Suisse avec son mari. À Genève, le procureur a estimé qu'il fallait lui donner une chance. À Berne, non. La loi, c'est la loi. Toujours en Suisse, cette année a vu le record des divorces. Les Suisses, donc, les Suisses divorcent énormément. L'année dernière, donc en Suisse, on a vu 14 530 mariages qui ont été dissous. Le nombre des mariages a lui baissé également après son point culminant de 1991. Au niveau de la natalité, on constate un retard, si on veut, dans la naissance des enfants, puisqu'on voit une baisse du nombre des naissances chez les femmes jeunes de 20 à 24 ans. Par exemple, par contre, à partir de 30 ans, ça grimpe, ça a augmenté de 25% chez les femmes jusqu'à 35 ans et de 50% chez les femmes jusqu'à 40 ans. Et puis, on peut aussi souligner que 75% des enfants nés hors mariage ont été reconnus par leur père, ce qui est beaucoup plus qu'il y a 12 ans. Toujours d'ailleurs sur le front du divorce, un nouveau droit du divorce qui ignorerait la notion de faute a été proposé par la commission d'experts à Berne. La mise en place d'une responsabilité commune des parents après le divorce est donc pensée pour mieux sauvegarder l'intérêt des enfants. Cela a d'ailleurs suscité l'approbation, mais divers partis et organisations ont regretté que des institutions juridiques surannées, comme les fiançailles, aient été maintenues et que des formes de vie non conventionnelles, comme le concubinage, ait été ignoré. En parlant de concubinage, c'est vraiment une fléau, dirait-on. En tout cas, ça se propage puisque dans l'Europe, dans les, un enfant sur cinq naît de parents non mariés. La palme en Scandinavie, où près d'une naissance sur deux est hors mariage, contre une sur trois en France et au Royaume-Uni et une sur quatre en Norvège et en Autriche. Le nombre des mariages a quant à lui à la baisse partout dans les. Toujours en Suisse, une nouvelle campagne anti-tabagisme a été présentée. Elle s'adresse directement et en priorité aux femmes qui voudraient arrêter de fumer. En effet, malheureusement, à ce niveau-là, l'égalité est presque atteinte puisque le cancer du poumon fait 4 fois plus de victimes parmi les femmes qu'il y a 25 ans, alors qu'il est en diminution chez les hommes. Il y a autant de femmes que d'hommes qui fument dans le groupe des jeunes femmes de 20 à 25 ans. En parlant d'ailleurs du cancer, au niveau du cancer du sein, un congrès qui s'est tenu à Genève, qui a réuni plus de 600 spécialistes qui ont parlé de la relation du cancer du sein avec le psychisme, mais également avec l'art. Il faut savoir que le cancer du sein frappe à Genève une femme sur 10 et qu'il est la première cause de mortalité des femmes entre 35 et 55 ans. Genève arrive d'ailleurs, c'est une des villes les plus touchées d'Europe. Pourtant, la prévention est particulièrement efficace dans ce genre de maladie et on voudrait instaurer un dépistage par la mammographie. C'est une radiographie un peu spéciale, systématique. L'examen devrait être renouvelé tous les 2 ans sur toutes les femmes de 50 ans et plus. Mais on attend de cette mesure une baisse de l'ordre de 40% de la mortalité de ce cancer. Un objectif d'autant plus concret que depuis 30 ans, malgré tous les efforts déployés, le taux de mortalité du cancer n'a pas varié à Genève, qui est l'un des endroits les plus atteints de la planète. Le dépistage systématique pose pourtant quelques problèmes puisque la plupart des caisses de maladie n'acceptent pas de rembourser les mammographies faites à titre préventif. On attend qu'on ait déjà le cancer. Les élections à Genève, les femmes socialistes s'agitent pour leur chapelle. Elles ont entre autres organisé la semaine dernière une course électorale. Elles sont parties montant à la treille à pas de course en poussant poussette et bébé. Il pleuvait énormément. Elles sont donc parties à l'assaut du Grand Conseil. La gagnante était celle qui arrivait avec son pousse-pousse la première. Parallèlement, une action de soutien à l'élection des femmes de tous bords au Grand Conseil a démarré aujourd'hui. C'est l'opération Myosotis qui encourage les femmes à voter pour leurs concitoyennes candidates aux législatives. En dépit des appartenances politiques, Élisez les femmes. C'est l'Association genevoise des droits de la femme, la GDF, qui donc a lancé aujourd'hui, mercredi 13 octobre, son action. Les candidates au Parlement se sont installées au Mollard durant tout l'après-midi. But de la manifestation, soutenir les candidates féminines. La politique, c'est notre affaire. Les femmes défendent la politique au même titre que leurs collègues masculins, mais elles le font souvent avec un autre langage et dans une grande indépendance d'esprit, optant parfois pour d'autres priorités, nous dit la présidente de la GDF. Battons notre record, tel est le slogan de la manifestation. La situation n'est pas très très bonne. Une simple question d'arithmétique, il n'y a pas de domaine réservé et les femmes représentent plus de 50% de la population. Pourquoi ne partagerait-elle pas égalitairement les responsabilités politiques avec les hommes ? À Genève, Michel Bard, secrétaire général de la Fédération des syndicats patronaux, patron des patrons, se fait des soucis pour l'économie et propose entre autres aux chômeurs, il les incite même à prendre un emploi, même en dehors de leur spécialité, même en dehors de leur secteur économique et même à moindre salaire. Michel Bard a terminé son chapitre en laissant entendre que c'est le niveau élevé des salaires qui est sans doute finalement la cause principale du mal à combattre. Le même jour, on apprenait qu'en Suisse, les riches deviennent toujours plus riches grâce aux plus-values boursières. Tellement plus riches que ça ressort donc dans la liste des 250 plus grandes fortunes de Suisse. De 4 à 5 milliards de francs, la limite supérieure est désormais passée à 7 ou 8 milliards de francs. Ainsi, Nicolas Hayek, le patron de la SMH, a en 1992, sa fortune s'était évaluée à 350 millions de francs. Et bien cette année, elle se situe aux alentours de milliards de francs. Bien sûr, on peut penser que M. Bard parlait de ce type, pensait à ces types de revenus-là quand il a fait sa déclaration. Et pour terminer, nos cochons, j'en distribue quelques-uns, c'est la pluie qui m'inspire. Le premier, nous le distribuons à M. Otto Zwigart, conseiller national indépendant, qui au moment du débat sur l'assurance maladie à Genève s'est écrié « il faut économiser », prétextant la crise budgétaire. Il a essayé d'imposer qu'on refuse le remboursement, très très rare, d'une interruption de grossesse due à des causes médicales. Car, dit-il, ce n'est ni moral ni économique. Et puis un deuxième cochon, celui-là, c'est lors du congrès des conservateurs anglais. Nous avons pu entendre en la personne de Michel Portillo, conservateur et grand cochon devant l'univers, qui a évoqué les parasites de l'État-providence. Il a entre autres dénoncé les mères célibataires qui obtiennent un appartement bon marché alors que des familles sont à la rue. Il faut, dit-il, punir les tricheurs et les parasites de toutes sortes dans une révolution conservatrice permanente. Quant au Premier ministre John Major, il a insisté sur le retour aux valeurs anciennes comme la discipline, la responsabilité, le sens de la famille. C'était les nouvelles sur 93.8 MHz, son femme Radio Zone. Dans quelques instants, Marjolaine vous parlera de ses coups de cœur.
Control. We won't turn me on. Everything I do is coming from my soul.